Madame la ministre, mesdames et messieurs les directeurs responsables du ministère de la Justice aux responsables des institutions judiciaires, mesdames et messieurs les professeurs et chercheurs de différents établissements, chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très honoré de vous accueillir, madame la ministre, très heureux d'accueillir à l'École des études en sciences sociales ce premier colloque sur l'état des savoirs sur la justice, organisé en collaboration entre l'école et le ministère de la Justice. Et je tiens à remercier d'emblée le ministère de la Justice pour avoir choisi le HESS pour réaliser ce colloque, et à remercier spécialement ceux qui l'ont organisé, notamment Benjamin Camus, Laetitia Brunin, Stéphanie Kretovic, du côté de le HESS, Liora Israël et Joël Busutil. La journée d'aujourd'hui vise à réaliser un état des savoirs sur un certain nombre de sujets, mais aussi et surtout à ouvrir un dialogue entre chercheurs et acteurs du droit et de la justice selon des modalités nouvelles, celles d'un véritable échange. Le ministère de la Justice est déjà très investi dans le financement de la recherche, notamment via le GIP Justice, bien connu de nombreuses équipes de l'EHESS, mais il est sans doute nécessaire, de part et d'autre, d'accroître encore ces liens, à la fois pour échanger sur des recherches conçues sans lien direct avec le ministère et qui pourtant, par bien des aspects, peuvent en intéresser les professionnels, et en sens inverse, le ministère et les professionnels de la justice en général doivent pouvoir dialoguer facilement avec les chercheurs pour soumettre des hypothèses ou des questions et faire prendre conscience des ressources du monde judiciaire qui peuvent s'ouvrir à davantage de chercheurs, qu'il s'agisse des données statistiques encore largement inexploitées, et j'ai eu la chance d'en parler dans d'autres fonctions avec M. Camus, ou du droit en acte qui requiert un accès facilité à davantage d'institutions. La justice est une des aspirations majeures de l'humanité, une des motivations majeures des chercheurs. Comme principe, la justice est comme la paix un état stable, idéal, qui contraste avec le caractère mouvant et toujours imparfait de notre action. C'est de cette tension que naît l'importance de l'administration du droit et de la justice comme réalité sociale et comme objet d'études inépuisables pour les chercheurs. Le droit comme traduction des principes de justice en normes et procédures, et le système judiciaire comme organisation tentant de mettre en œuvre le droit, concentrent l'un et l'autre les aspirations et les relations sociales, avec toutes leurs tensions et leurs contradictions. Ces dernières années, les évolutions de la société en matière de relations entre les genres ou de familles se traduisent ainsi par une demande renouvelée de justice à laquelle vous avez, Madame la Ministre, répondu en prenant le risque d'exposer à la société ses transformations et ses contradictions, et avec un courage que nous avons tous admiré. La réforme pénale est un cas similaire, et il y en a bien d'autres, apparemment plus techniques, mais non moins cruciaux. J'ai eu ainsi l'occasion de travailler un peu sur la législation des faillites et sa mise en œuvre, un lieu où s'exposent aussi les contradictions de la société commerciale. Un tel terrain complexe et en évolution permanente ne pouvait qu'attirer les sciences sociales, et il est en fait surprenant qu'elles aient longtemps hésité, en France au moins, à s'y plonger pleinement, respectant de par trop les spécificités et technicités apparentes du droit, grande discipline universitaire, mais à laquelle l'initiation dans l'enseignement secondaire n'est pas ouverte aux citoyens. Heureusement, cette hésitation est en train de disparaître et les anthropologues, les historiens, les économistes, les sociologues, les politistes, les spécialistes de sciences cognitives se tournent aujourd'hui avec intérêt vers la masse considérable de textes, de décisions, d'interactions réelles que produisent quotidiennement les tribunaux, l'activité de tous les gens de justice, et celle de chacun de nous lorsqu'il choisit ou non de passer par le droit ou la justice dans n'importe quelle interaction sociale. La mise en évidence du droit en acte, par le développement de l'analyse empirique du droit et par les multiples outils et méthodes des sciences sociales, est en effet aujourd'hui un enjeu scientifique majeur à l'échelle internationale, y compris lorsqu'il s'agit de repenser la formation des juristes. Un enjeu qui se trouve au cœur du développement à la fois de démarches plus interdisciplinaires et d'une manière renouvelée d'aborder deux fronts, le droit et la justice. En complément des approches classiques centrées sur le droit des livres ou dans l'analyse des décisions, se développent en effet de plus en plus de recherches qui se saisissent de toute l'épaisseur sociale du droit, tel qu'il est écrit et négocié dans les administrations, tel qu'il est mis en œuvre dans les services publics, mais aussi dans les organisations privées, encadrées par des dispositifs et des pratiques respectées ou contournées, conduisant à des contentieux entre des acteurs dissemblables, comme à l'imposition de nouvelles manières de faire ou de penser. La fabrique du droit, comme l'application de la loi, repose en effet, encore souvent, sur une conception du rapport entre normes et pratiques, entre prescriptions et applications, que la réalité sociale dément. Pendant longtemps, les sciences sociales ont pu être pensées comme des adjuvants nécessaires au droit pour le rapprocher des pratiques, soit en le faisant évoluer au regard des évolutions sociales, soit, en sens inverse, en développant des appareils de contraintes plus ajustés. À cette approche par l'écart, qui a pu conduire à accorder un statut instrumental aux sciences sociales, pensées comme des adjuvants de la bonne réforme juridique, a pu répondre la méfiance des spécialistes de sciences sociales, jugeant cette approche trop normative, et l'incompréhension des juristes. Comme on atteste cette journée, ce n'est sans doute pas ce type de questionnement qui est le plus à même ni de garantir de bonnes recherches de sciences sociales, ni d'apporter des réponses véritablement pertinentes relatives à la portée sociale du droit. Comme l'écrivait il y a déjà 40 ans Richard Abel, la question n'est pas celle de l'écart évident entre droit et pratique sociale, mais plutôt de comprendre de façon non normative quelles sont les formes d'articulation entre variables sociales et comportements juridiques. À rebours d'une conception qui assignerait aux sciences sociales la seule capacité à mieux assurer, par des études appliquées, l'effectivité du droit, il importe donc de porter une ambition plus vaste, dont on peut penser qu'elle permettra de donner toute sa mesure à l'importance du droit et de la justice dans nos sociétés, au bénéfice à la fois de l'avancée de la connaissance et des enseignements pour les acteurs professionnels. Les quatre tables rondes d'aujourd'hui sont à la fois au cœur des préoccupations les plus brûlantes et en même temps croisent des problématiques et des enjeux classiques des sciences sociales. Les questions de la gestion du temps, des recompositions familiales, du traitement de la jeunesse ou de la prison traversent bien sûr de nombreux travaux. Au-delà des apports et des échanges suscités par leurs discussions, la question des méthodes des sciences sociales, si cruciale à l'EHESS, sera reprise en fin de journée afin de mettre en évidence combien les résultats d'une recherche ne peuvent être réellement compris qu'inscrits dans la démarche qui les a produits et parfois dans les obstacles qu'elle a rencontrés. D'où, à cet autre niveau également, l'importance d'un approfondissement des liens entre chercheurs et monde de la justice. Pour organiser ce colloque et l'accueillir, je crois que le choix de l'EHESS n'est pas un hasard. Institution de formation à la recherche, par la recherche, l'EHESS n'est pas pour autant retranché dans sa tour d'ivoire. Jacques Le Goff, premier président de l'école, lors de son autonomisation par rapport à l'école pratique des hautes études, était un médiéviste, mais passionné par la société contemporaine, dont il pensait repérer les contradictions dans des transformations de très longue durée. Comme nombre d'historiens, il a fait un usage régulier et affûté de sources judiciaires. La question du droit a été travaillée à l'école de longue date, de Gabriel Le Braz à Derrida, de Bourdieu à Yann Thomas. Le HESS, institution interdisciplinaire, accueillant des juristes soucieux de dialogue, est aujourd'hui, je crois, mieux à même qu'aucune autre institution en France de passer de débats parfois encore théoriques à un véritable tournant empirique des sciences sociales, du droit et de la justice. L'ouverture internationale exceptionnelle de l'école lui permet à la fois d'ouvrir à d'autres traditions de recherche sur le droit, mais aussi à une série de terrains étrangers, du droit et de la justice chinois à ceux de l'Antiquité grecque, dans les deux cas hors de notre tradition européenne, de ce que notre tradition européenne a longtemps appelé le droit. Elle permet aussi de les aborder par des biais inattendus, de l'anthropologie de l'écriture à l'analyse des controverses, en passant par l'histoire coloniale. Loin d'être des déplacements de pure érudition, ces ancrages diversifiés sont, au contraire, autant de points d'appui pour penser de façon véritablement réaliste et ancrée dans les enjeux les plus brûlants des sciences sociales comme de nos sociétés, ce que fait le droit et comment opère la justice. Je conclus en vous remerciant encore d'avoir choisi notre institution pour organiser cette rencontre, en souhaitant une grande réussite à cette journée et en espérant qu'elle suscite des attentes qui seront renouvelées chez les uns et les autres et déboucheront sur de nouvelles journées qui apporteront encore des découvertes. Je vous remercie.
Comment vous avez fait, vous ? Tout seul ? Bon. Mais il faut entrer dans le siècle. Et c'est avec technologie automatique. Monsieur le président de l'école des hautes études en sciences sociales, monsieur le procureur général près la Cour de cassation, madame Maestrachi, cher membre du Conseil constitutionnel, représentant peut-être ici le président du Conseil constitutionnel, mais je connais votre passion pour la recherche, pour les études, pour les travaux, donc probablement intuitif personnel. Mesdames et messieurs les hauts magistrats, procureurs généraux, procureurs, présidents, présidentes de tribunaux de grande instance, mesdames et messieurs les représentants des professions, avocats, huissiers, notaires, mesdames et messieurs responsables du ministère, secrétaire général, inspecteur général des services judiciaires, directrice, directeur, mesdames et messieurs les directeurs et professeurs de l'école, et à vous particulièrement, monsieur le président, merci pour votre accueil chaleureux. Merci surtout de nous donner l'hospitalité, d'accueillir ces travaux dans cette maison, ce haut lieu de connaissance, cette maison dont la démarche pluridisciplinaire et l'ouverture sont à la fois des marques d'identité et une méthode de travail. Je vous remercie donc d'héberger ce temps de réflexion croisée entre le milieu universitaire et le milieu de la justice. Nous éprouvons évidemment tout l'honneur qui est fait à cette initiative qui est prise de mieux articuler les recherches effectuées par les organismes du ministère de la Justice, par les services du ministère de la Justice et par les organismes du ministère de la Justice avec les universitaires, parce que nous connaissons bien la symbolique de cette maison. Vous avez rappelé ce qu'a fait Jacques Le Goff en 1972 lorsqu'il a été chargé de la prise en charge de cet établissement autonome par rapport à l'école pratique des études, l'école des hautes études. Mais c'est une maison qui est prestigieuse aussi par les professeurs qu'elle a hébergés et qui continue de l'être par les professeurs qui y exercent. Je pense bien entendu, c'est facile, il faut le dire, au philosophe Jacques Derrida et à Pierre Bourdieu. J'y pense particulièrement parce que ce sont de belles figures intellectuelles, éminentes, et j'ajouterais exaltantes, parce qu'au moment où moi je les ai découvertes, j'ai ressenti une exaltation profonde, parce qu'il y a eu une façon, de stimuler la curiosité intellectuelle, d'inciter à la culture, d'inviter à la traversée des frontières, qui, je crois, marque bien la pratique de cette école aujourd'hui encore. Je ne peux pas remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je sais que c'est un travail de préparation lourd. Je vais simplement me nommer quelques-uns qui ont été peut-être la cheville ouvrière de cette organisation. Je pense à Madame Yura Israël, qui est maître de conférence en sociologie ici, dans cette maison. Et bien entendu, pour le ministère, à M. le sous-directeur du service des études et de la statistique, M. Benjamin Camus, et son adjointe, Mme Laetitia Brunin. Évidemment, les directrices et directeurs de l'administration s'y sont fortement impliqués, et bien entendu, les enseignants également. Donc, merci d'avoir fait en sorte que cette journée se tienne. Et ce ne sont pas des remerciements de circonstance. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, évidemment, parce que cette rencontre est inédite et il est inhabituel. Cette façon de structurer le travail entre le milieu universitaire et le milieu de la justice est inhabituelle. Et je pense profondément qu'il faut, au contraire, développer les échanges et la coopération entre ces deux milieux et le faire avec des formes nouvelles, avec une régularité qui doit s'inscrire dans le temps. C'est un choix que j'ai fait et qui, pour moi, est extrêmement important parce que depuis 2 années, j'ai pris le pari, qui est aussi un défi, je crois, de faire reposer les politiques publiques sur le savoir et sur la connaissance. Je pense que pour gouverner, il est essentiel de se dégager du temps politique, du temps médiatique, de leur tyrannie respective et de chercher à interpeller la raison et l'intelligence des citoyens. Et tout en reconnaissant la légitimité de leurs émotions, de leurs peurs, d'essayer d'atteindre par-delà ces émotions et ces peurs, cette raison et cette intelligence, parce que l'action politique, les politiques publiques ne peuvent être efficaces que si elles sont respectueuses des citoyens, si elles sont capables de leur proposer une vision à long terme, sans bien entendu négliger ni le quotidien, ni les urgences. Heureusement, il y a un souci partagé dans le milieu universitaire et dans le milieu de la justice, un souci partagé qui nous permet de croiser nos initiatives et nos travaux et de nous enrichir mutuellement. Ce choix que j'ai fait de faire reposer l'action publique et les décisions publiques sur le savoir et les connaissances est illustré d'abord par le processus que j'ai mis en place pour la préparation du projet de loi d'individualisation de la peine et de lutte de prévention de la récidive. Puisque j'ai choisi de commencer ce travail sur une base extrêmement rigoureuse, qui se voulait incontestable, même si elle est encore et sera fortement contestée, une base rigoureuse en faisant le choix d'installer une conférence de consensus. Et j'aime à dire que lorsque l'on installe une conférence de consensus, c'est qu'on accepte le risque de constater éventuellement un dissensus. C'est un risque qui est inhérent à la démarche, puisque la démarche a consisté à mettre en place un comité d'organisation diversifié, pluridisciplinaire, représentatif, avec donc des personnalités. Je remercie ici Madame Maestracci qui a consenti à assurer la présidence du comité d'organisation, qui a construit un travail considérable, scientifique, rigoureux, incontesté celui-là, et mis à la disposition des chercheurs et du public. Ce comité d'organisation était donc composé de personnalités, de parcours divers, d'expériences diverses, d'engagements divers, de fortes personnalités, de positionnements partisans parfois, avec des divergences constatées. C'est bien pour ça que nous les avons mis ensemble. Et ce comité d'organisation a été capable néanmoins d'élaborer un état des savoirs sur le plan national et international qui sur la prévention de la récidive, qui fait référence et qui a permis que le jury de consensus lui-même commence ses travaux sur un socle de connaissances et d'évaluation absolument incontestable, puisqu'il rassemblait des études françaises, européennes, des études étrangères et des études qui avaient été conduites non pas seulement dans chacun de ces pays, mais parfois sur des poules de pays, donc avec sur le temps, sur la durée et dans l'espace, bien entendu, des croisements et une rigueur méthodologique. Ce sont ces travaux qui ont permis d'élaborer ce projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine qui a été soumis ensuite à concertation et à arbitrage. Et ce parti pris de la recherche n'est pas terminé, nous allons le poursuivre. Nous allons le poursuivre notamment en travaillant sur le métier de conseiller d'insertion et de probation, puisque nous avons engagé un travail depuis plusieurs mois maintenant pour mêler les profils professionnels et faire en sorte que les personnes qui ont des formations dans des disciplines aussi diverses que le droit, que la psychologie, la psychiatrie, les sciences sociales, les politiques publiques, les techniques de l'information, que ces personnes travaillent ensemble, parce qu'il est important que nous arrivions à construire à la fois à partir des réflexions et de l'expérience et de la recherche, bien entendu, que nous arrivons à construire un savoir sur la criminologie, parce que dans ce domaine, nous avons quelques foulées à rattraper. Ce travail de recherche prend corps avec ce plan pluriannuel de la recherche 2014-2016 qui vous a été remis, qui vous est présenté dans la journée. Et ce plan pluriannuel donc illustre cette volonté, cette démarche, non seulement d'avoir commencé à s'appuyer sur les connaissances et sur la recherche, mais de veiller à ce que les grandes décisions qui seront prises s'alimentent des travaux conduits par les chercheurs et de le plus possible en coordination avec ceux qui pratiquent au quotidien ces métiers judiciaires. Ce plan pluriannuel de la recherche permet de dégager les enjeux stratégiques transversaux que nous avons retenu au nombre de 4. Le premier d'entre eux interroge le périmètre d'intervention de la justice, puisque nous avons bien vu comment ces dernières années, de nouveaux contentieux sont apparus sous l'impulsion des normes même élaborées par notre Parlement, sous l'impulsion du droit communautaire dont vous savez à quelle mesure il inspire le droit national par l'application directe des règlements européens ou par la transposition des directives européennes, et bien entendu sous l'impulsion aussi des mutations de la société, de ces changements, de ces métamorphoses même parfois économiques et sociales, et de l'émergence, de l'irruption d'un certain nombre de problèmes, de difficultés, d'infractions nouvelles qui donnent lieu à des contentieux nouveaux. Il faut reconnaître que le système pénal a répondu de façon plutôt efficace à ces nouveaux contentieux, à l'arrivée de ces nouveaux contentieux. C'est en tout cas ce qui apparaît dans le rapport qui a été élaboré sous la direction de Jean Danet. Et manifestement, il y a eu une plasticité suffisante dans le système pénal pour apporter les réponses, ce qui nous conduit à considérer qu'il faut une approche rationnelle, bien entendu, mais qu'on ne peut pas simplement de façon récurrente interroger constamment l'institution judiciaire et les juridictions sur leur capacité à absorber, malgré cet afflux de contentieux nouveaux, donc ce risque permanent d'engorgement des juridictions. Cela veut dire néanmoins que nous devons avoir une approche rationnelle et nous interroger, notamment en sachant que nous sommes dans un environnement budgétaire contraint qui ne va pas se dénouer très vite, la nécessité de réfléchir néanmoins sur ce périmètre d'intervention de la justice, sur les types de contentieux éventuels ou les procédures qui pourraient faire l'objet soit d'un assouplissement sur leur juridictionnalisation, leur judiciarisation plutôt, ce qui veut dire très clairement non pas l'exclusion du juge, mais le maintien à la fois dans le cadre juridique et dans le cadre judiciaire d'un certain nombre de contentieux, mais avec des procédures assouplies qui permettent de garantir les libertés et les droits des justiciables, tout en évitant des procédures qui étaient lourdes, mais qui maintenant, sur la base de la pratique, permettent d'être assoupli sans pénaliser ni sans réduire la qualité des décisions judiciaires prononcées. Vous avez été quelques-uns à participer aux réflexions sur la justice du XXIe siècle au service du citoyen. Je vous en remercie. Les travaux qui ont donné lieu à des rapports et au grand débat national à l'UNESCO en janvier se poursuivent par la consultation des juridictions qui ont fait remonter plus de 2000 contributions qui sont examinées en train d'être finalisées de façon à ce que dans le calendrier que nous avions prévu, nous prononcions un certain nombre de décisions pour cette réforme judiciaire. Donc du travail a été fait, il a été fait spontanément parce que dans les juridictions, il y a du personnel qui a suffisamment d'ingéniosité et de créativité pour répondre à des situations imprévues ou imprévisibles et construire des solutions, mais il revient à la puissance publique d'accompagner ou de construire, d'anticiper, éventuellement de systématiser ces solutions. C'est ce que nous faisons avec toute une série de dispositifs. D'abord, évidemment, des dispositions normatives, puisque nous avons introduit dans des lois d'habilitation des dispositions qui permettent d'améliorer les procédures, de moderniser aussi, puisque nous introduisons la possibilité de communication électronique dans les procédures pénales, dans les procédures civiles aussi, mais ça c'est réglementaire, dans les procédures pénales, tout en veillant bien entendu à sécuriser ces procédures. Et puis nous avons mis en place des dispositifs pratiques au sein de la direction des services judiciaires qui permettent de mutualiser ces réponses ingénieuses, innovantes qui ont été construites, de les mutualiser et donc de les répandre dans l'ensemble de nos juridictions. Nous devons donc accompagner, et cette réflexion sur ce périmètre d'intervention est importante. Elle est aussi inflammable, parce que dès qu'on parle du périmètre d'intervention de la justice, certains croient que nous sommes en train de dépecer le champ de compétences. Certains s'en inquiètent, d'autres se pourlèchent les babines en se disant « mais ce qui ne relèvera pas directement de la justice devrait tomber sous dans notre escarcelle ». C'est dit avec une ironie un peu affectueuse, parce que pour l'instant, les travaux se font très sérieusement. Ce qui fait du bruit à l'extérieur, et évidemment mon ironie ne porte que sur ce qui fait du bruit à l'extérieur, c'est que chaque fois qu'il apparaît que nous réfléchissons un contentieux particulier pour savoir s'il est possible, tout en maintenant le niveau de sécurité juridique, d'assouplir le traitement de ce contentieux. Nous voyons apparaître des débats qui sont de faux débats et qui consistent à se demander quelle est la profession ou quel est le métier qui va récupérer ce qui fait l'objet de cette réflexion. Il n'empêche que les professions, les représentants des professions et les métiers eux-mêmes travaillent de façon très très sérieuse, très rigoureuse, de façon à voir ce qu'il est possible de faire dans la réflexion qui y est ensuite est ainsi conduite. Le deuxième enjeu stratégique important concerne la qualité et l'efficacité des décisions judiciaires. Il y a là un champ de réflexion extrêmement important qui appelle une coopération entre l'université, la recherche et les professionnels de la justice. Cette coopération doit porter sur des sujets éminents comme l'évaluation nécessaire des dispositifs qui existent. Je pense notamment au traitement en temps réel, qui est un dispositif qui a été mis en place il y a une vingtaine d'années à l'initiative du ministère public, donc des procureurs de la République. Un dispositif qui a rendu de nombreux services, mais justement qui, comme c'est souvent victime de son succès, a été pris d'assaut, est parfois maintenant embolisé et appelle quand même une réflexion pour une éventuelle rationalisation et généralisation des bonnes pratiques. Ça fait partie des sujets sur lesquels il est important que les échanges se fassent entre la recherche et les professionnels. Nous avons une excellente inspection générale des services judiciaires que j'ai chargée d'évaluer ce dispositif qu'il a fait dans les délais impartis, qui étaient des délais très, très, très difficiles à tenir. Mais il m'a donné l'habitude de tenir mes délais impossibles, donc je poursuis ainsi. Et je suis sûre qu'il va continuer à réfléchir les analyses qui ont été les siennes en développant les échanges avec le milieu universitaire. Il y a d'autres sujets, bien entendu, tels que l'organisation de la justice, mais cela relève davantage de la responsabilité de l'exécutif. Des sujets sur les besoins des usagers et l'évolution de ces besoins. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels il est important que nous arrivions à construire de nouveaux indicateurs de façon à mieux apprécier les choses. Et nous avons déjà commencé à élaborer un certain nombre de réponses, telles que les systèmes d'information internes au ministère, le CID, le système d'information de la décision en matière décisionnelle en matière pénale du ministère de la Justice, va contribuer à apporter ses réponses parce que très prochainement, il est opérationnel ou il est en train de le devenir. Il permettra à la fois au ministère mais aux juridictions de mettre à disposition des éléments plus fins de leur activité et donc de mettre à votre service, vous les enseignants et les chercheurs, des données plus élaborées. Le troisième enjeu stratégique concerne la construction du droit. Parce que, et vous y êtes très particulièrement sensible sans doute, ces dernières années, la doctrine qui est en majesté quand même, le sujet juridique le plus important a été aussi le plus exploré et tous ces travaux de recherche sur la doctrine ont d'une certaine façon vampirisé l'espace de recherche et de réflexion et écarté à la périphérie d'autres sujets tels que la construction du droit avant les arrêts de la Cour de cassation, tels que les pratiques judiciaires d'une façon générale, tels que la jurisprudence concrète, tels que toute une série de matières qui contribue à la construction du droit et donc à la mise en œuvre de la loi. Heureusement, les chercheurs que vous êtes sont une espèce à la fois audacieuse et téméraire, et vous arrivent souvent en pionnier, et puis après, avec un effet d'entraînement, d'aller investir et explorer des champs qui ne l'étaient pas et qui ne paraissaient pas évidents. Et c'est ce qui a permis que progressivement la recherche s'intéresse à ces matières qui paraissaient moins nobles que la doctrine, mais qui néanmoins sont essentielles pour comprendre la mise en œuvre de la loi. En plus des travaux et des initiatives que les chercheurs pionniers ont entrepris, les services du ministère et les écoles du ministère et des professions ont contribué parce que justement, dans ces services et ces écoles, il y a des personnes de plus en plus qualifiées et de plus en plus exigeantes sur l'exercice de leur métier. Ces personnes ont commencé, elles aussi, à produire une réflexion, y compris conceptuelle, et une réflexion sur leur pratique professionnelle. C'est le cas de l'École nationale de la magistrature, c'est le cas de l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est le cas de notre école de l'administration pénitentiaire et de notre École nationale des greffes, c'est également le cas des écoles du barreau, et même des observatoires du Conseil national des barreaux, ainsi que l'observatoire de la Chambre nationale des huissiers. Il y a là donc une espèce d'effervescence qui permet que sur toutes ces matières, nous commençons à voir justement de la matière pour mieux comprendre comment s'applique le droit. Et une des belles illustrations, c'est ce rapport qu'a produit le collectif 11 sur le tribunal des couples, avec le soutien d'ailleurs de la mission de recherche droit et justice, et qui permet d'avoir un regard nouveau sur le traitement du contentieux familial, du contentieux conjugal. Et comme il a bénéficié d'une couverture médiatique importante, ça a permis de diffuser dans la société cette approche à la fois théorique, méthodologique et pragmatique du contentieux familial et conjugal, et donc de comprendre ce qui se joue là dans des espaces mal perçus sur le plan global dans la société, mais essentiels pour un certain nombre d'équilibres dans la société. Le dernier enjeu, le quatrième enjeu stratégique important, il concerne la nécessité de développer des études et des recherches pluridisciplinaires, quantitatives, internationales, c'est-à-dire au-delà du droit comparé qui est pratiqué par vous-même, par des chercheurs, par des enseignants, au-delà de ce droit comparé, y compris par le ministère d'ailleurs, parce que nous en avons souvent besoin. Dans le cadre de nos études d'impact, nous faisons souvent du droit comparé de façon à mieux appréhender les effets des dispositions normatives que nous inscrivons dans les projets de loi, mais aussi de voir comment les pays qui ont des systèmes juridiques judiciaires comparables et des règles démocratiques comparables aux nôtres, comment ils ont répondu ou commencé à répondre à un certain nombre de sujets que nous traitons. Évidemment, nous nous glorifions du fait que dans ces pays-là, ils pratiquent aussi le droit comparé, ils regardent les réponses que nous-mêmes nous avons construites sur toute une série de sujets sur lesquels nous avons aussi de l'avance compte tenu de la qualité de notre recherche ici. Évidemment, ça n'est pas peu de choses de dire qu'il faut développer la recherche pluridisciplinaire et internationale. Cela veut dire prendre le risque, accepter le risque, et c'est à dessein que j'utilise ce terme, accepter le risque de la rencontre de cultures de recherche différentes, accepter cette confrontation, accepter la mise en interrogation de toute une série de paramètres qui sont familiers lorsqu'on travaille dans le champ national et qui deviennent relatifs et même mis en cause carrément lorsque l'on ose s'aventurer dans la coopération internationale. Donc c'est un risque, mais c'est un risque exaltant lui aussi, parce qu'il est extrêmement prometteur d'une pensée plus féconde encore que celle que l'on fait s'épanouir et éclore dans un bouillon de culture nationale. Et ce risque-là, j'ai envie de vous dire qu'il se résumait de façon un peu provocatrice par une phrase de Pierre Bourdieu, mais je ne sais pas si on peut trouver une phrase non provocatrice chez Pierre Bourdieu, qui, évidemment, sociologue, disait que le sociologue rompt le cercle enchanté en essayant de savoir ce que l'univers du savoir ne veut pas savoir, notamment sur lui-même. Et je pense que dans cette aventure qui consiste à travailler avec des chercheurs d'une autre culture nationale et d'une autre culture professionnelle, d'une autre culture de recherche, cette aventure qui consiste à aller oser construire des choses ensemble, je crois qu'on tient un vrai risque, mais c'est un risque lorsqu'il est surmonté, permet à la recherche de faire des bons. La journée, pardon d'être un peu longue et d'abuser de votre attention, je vais conclure rapidement. La journée d'aujourd'hui permet donc de faire le point sur tous les travaux de recherche du ministère qui sont mis aussi à votre disposition, parce que nous avons des travaux de recherche qui sont faits de façon continue. Certains sont en vocation à rester à usage interne, d'autres sont mis à votre disposition. Donc je sais que le ministère vous permet l'accès aux informations. D'abord, il y a des publications, je pense à Infostat et à d'autres, aux études et documents de l'administration pénitentiaire, aux chiffres clés. Mais au-delà de cela, l'administration vous permet l'accès aux statistiques, l'accès aux archives, l'accès aussi à nos établissements pénitentiaires. Et depuis 2 ans, je veille à ce que l'accès soit facilité dans nos établissements pénitentiaires. Et vous ne vous en privez pas, vous continuez à être les bienvenus. Nous allons continuer à travailler. Je continue à considérer que les travaux, y compris des organismes de recherche du ministère ou liés au ministère de la Justice, font un travail de très grande qualité et qu'il nous faut veiller à maintenir les conditions de ce travail. Donc je continue à conduire mes batailles budgétaires qui ont permis que 2013-2014, on maintienne les moyens. Il faudra aussi qu'on les maintienne 2015. Je voudrais bien les faire augmenter, mais déjà, c'est un travail presque de titan que de maintenir la digue pour qu'il ne baisse pas. J'en profite d'ailleurs pour saluer Monsieur Garapon, qui est directeur de l'Institut des hautes études pour la justice, saluer Monsieur Georges Gariou, qui lui est chargé de notre mission recherche droit et justice, saluer Monsieur Fabien Jobard, qui lui anime le CESDIP, dirige le CESDIP. Et Madame Marie-Eugénie Laporte-Legey, qui est chargée de Juriscope, et qui sont vos interlocuteurs et qui continueront de l'être. Voilà, dans cette journée, nous allons consolider, renforcer, pérenniser cette coopération. Elle est essentielle, elle est vitale. Elle est essentielle, elle est vitale. C'est sur cette capacité que vous avez à accumuler des connaissances que nous pouvons asseoir des politiques publiques solides, éclairées par le savoir, éclairées par la connaissance et enrichies, bien entendu, par l'appréhension plus directe que nous avons des difficultés des citoyens et des attentes des citoyens. Donc, merci d'y contribuer. Nous continuerons à faire ce qu'il est possible pour que cette coopération continue à se développer. Je sais que ceux qui, au ministère de la Justice, travaillent avec vous sont des personnes qui ont justement cette culture de la recherche, qui ont cette culture de la rigueur, qui ont cette culture de l'exigence. Et je ne doute pas que dans les relations, ce travail de coopération reposera sur des principes que vous imposez vous-même lorsque, dans vos démarches pluridisciplinaires, vous travaillez entre chercheurs de culture, de matières, de disciplines différentes. Ce principe de respect du travail de l'autre n'exclut pas et au contraire même inclut l'interrogation, constamment la mise en doute des certitudes qui sont avancées, le travail de dissection des hypothèses. Et je peux vous assurer que, compte tenu de la rigueur avec laquelle ceux qui travaillent aux études et aux statistiques dans le ministère pratiquent, dans la coopération, vous n'aurez pas de difficultés. Je pense que vous l'expérimentez déjà. Vous n'aurez pas de difficultés. Ils vont respecter les mêmes règles que vous respectez. Ces règles sont peut-être résumées. Vous avez compris que c'est exprès que je cite Bourdieu et Derrida, parce que je me fais plaisir aussi quand je viens devant une assistance aussi prestigieuse, avec moi-même ma propre témérité pour oser m'exprimer devant vous. Un des principes énoncés par Derrida, c'est de dire que le texte de l'autre doit être lu, interrogé sans merci, mais donc respecté, et d'abord dans le corps de sa lettre. je peux vous assurer que nos chercheurs à nous, y compris quand ce sont des chercheurs praticiens ou des praticiens-chercheurs, ils sauront lire le texte, l'interroger sans merci, dans le respect, et donc justement dans le respect du corps de la lettre. Merci beaucoup.